Bonjour à toutes et à tous, nous sommes les jeunes de la mission locale du FSE+, du groupe 10.
Le FSE+, signifie Fonds Social Européen+. Le FSE est un dispositif national pour agir en faveur de l'emploi.
Dans cette émission, nous allons parler de violences intrafamiliales avec Beritane et Anaïs. Nous allons parler du tabac avec Khalid et Florent. Mais tout d'abord, nous allons parler du harcèlement avec Stalia.
Tout à fait, Sean. En France, plus de 700 000 enfants sont harcelés.
C'est énorme.
Et pour parler de ce phénomène terrifiant, nous accueillons Émilie de l'association La Cause des Enfants.
Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Qu'est-ce qui définit le harcèlement ?
Alors, le harcèlement, ça va être une notion de répétition. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va parler de violence. Et quand c'est répété, ça va être du harcèlement.
Y a-t-il des causes qui débutent le harcèlement ?
Des causes qui débutent le harcèlement, il peut y en avoir plein. En fait, on va être sujet plutôt aux moqueries, on va être sujet à des humiliations. Et il peut se passer évidemment plein de choses dans les cours d'école. Ce qu'il faut vraiment, c'est que une fois que ça a commencé, pour que ça s'arrête immédiatement et que cette violence ne devienne pas du harcèlement, c'est immédiatement d'aller prévenir des adultes de confiance.
Est-ce que le harcèlement commence de plus en plus tôt ?
Je dirais que oui. Dès la maternelle, aujourd'hui, je suis interpellée et appelée pour des choses qui se passent déjà en moyenne section. Ouais.
Pourquoi il commence de plus tôt ?
Pourquoi il commence plus tôt ? Alors, en fait, à mon sens, et les études le montrent, le harcèlement, les violences, c'est dû au fait que les enfants, les adolescents, qui sont du coup agresseurs, subissent eux-mêmes, à la maison, des choses pas très sympas. On va parler de maltraitance. Et en fait, ils sont effectivement très tristes, très en colère. Ils ont plein d'émotions négatives qui font qu'ils les reportent sur leurs camarades.
Combien de pourcents de jeunes sont touchés par le harcèlement ?
Alors, j'ai pas les chiffres exacts. En vérité, c'est entre 4 et 6%. En fait, je crois, et je veux pas dire de bêtises, qu'à l'école primaire, on est autour de 4%. Au collège, on est autour de 6%. Et au lycée, on est autour de 4%.
Vous nous avez dit tout à l'heure pourquoi il y a du harcèlement, mais est-ce que c'est la seule raison que les harceleurs harcèlent ?
Non, c'est pas la seule raison, hormis le fait d'avoir un handicap aussi, parce que l'inclusion est pas toujours simple à gérer au quotidien dans les établissements scolaires. Il y a aussi beaucoup d'enfants et d'adolescents qui deviennent agresseurs parce que eux-mêmes ont été victimes. Et pour ne plus jamais être victimes, du coup, ils deviennent agresseurs à leur tour.
Pourquoi les victimes de harcèlement n'osent pas parler ?
Les victimes de harcèlement, elles n'osent pas parler parce que c'est très compliqué de libérer la parole. On se sent très en colère. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, en fait. On est très triste aussi. Il faut reconnaître qu'on est victime et ça, c'est vraiment pas simple. On se dit toujours, ou souvent du moins, qu'on va pouvoir essayer de gérer la situation, que peut-être c'est pas si grave que ça. Et du coup, c'est pas simple tous les jours. Et puis, on a peur aussi de pas être cru, de pas tomber sur des adultes qui vont répondre à notre problématique. Voilà pourquoi c'est compliqué. Mon travail, moi, au quotidien, c'est justement de dire aux enfants qu'il est super important, et c'est même primordial, de pouvoir libérer la parole pour que tout s'arrête.
Quels sont les impacts sur le harcèlement des victimes ?
Les impacts, ils sont nombreux. On peut aussi, par exemple, ne plus avoir envie d'aller à l'école. Ça peut se transformer en phobie scolaire. On peut ne plus trouver d'appétit. On peut ne plus trouver le sommeil. Il y a des conséquences énormes à tout ça. Et puis, la conséquence, évidemment, la plus grave, ben, c'est le suicide.
Est-ce que le harcèlement entre amis existe ?
Bah, en fait, oui, il existe. Alors du coup, la question, c'est entre amis, mais du coup, est-ce que ce sont des amis ? Je ne crois pas. Mais Mais ça existe, en fait. Il y a beaucoup... En fait, on va parler de harcèlement plutôt psychologique, je dirais, entre amis, en humiliant et en rabaissant la victime.
Le harcèlement numérique, comment on le détecte ?
Le cyberharcèlement, du coup ?
Oui.
Oui. Mais le cyberharcèlement, on le détecte, il faut en parler aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui sont livrés à eux-mêmes avec un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, et il n'y a pas d'accompagnement. Et quand je rencontre des enfants, ils jouent à des jeux qui déjà sont pas adaptés à leur âge, avec un chat, avec ils peuvent parler au micro, ils peuvent échanger en fait avec des gens qui ne connaissent absolument pas. Et j'en parlais encore ce matin en prévention, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont de colère donner leur adresse à des inconnus sur les réseaux sociaux. Et ça peut évidemment être gravissime, hein. Il y a des enfants qui se rendent compte en fait derrière que c'était évidemment ce qu'il fallait pas faire. Ils l'ont fait. Et ils osent le dire à personne parce qu'ils savent très bien que c'est interdit. Et voilà. Et on manque beaucoup d'accompagnement et de communication, je pense, parce que les enfants, souvent, la réponse qu'ils me donnent, c'est « Bah ouais, mais si j'en parle, on va me supprimer ma console, on va me supprimer mon téléphone. » Alors qu'avec des aménagements, un contrôle parental et beaucoup de communication, je dis pas qu'on sauve tout, mais on arrive à faire plus de choses et à protéger nos enfants.
Quels sont les moyens contre le cyberharcèlement ?
Les moyens contre le cyberharcèlement, c'est beaucoup de prévention et ça rebondit en fait sur ce que je disais précédemment, sur le fait qu'il faut beaucoup, beaucoup accompagner les enfants, mettre en place un contrôle parental, regarder ce qu'ils téléchargent, regarder à quoi ils jouent et dans la mesure du possible, être avec eux lorsqu'ils jouent en fait.
Comment différencier le harcèlement physique et mental ?
Alors, le harcèlement physique ou la violence physique, ça va vraiment être faire mal au corps. C'est-à-dire que ça va être des coups, ça va être le fait de pousser, ça va être le fait de mordre quelqu'un. Ça va être tout ce qui est violence et harcèlement physique. Le harcèlement verbal, c'était ça ? Pardon. Moral ou psychologique, du coup, ça va plutôt être le fait de rabaisser quelqu'un, de lui dire qu'il est nul, de lui dire qu'il est moche, de lui dire qu'il est gros à longueur de journée, ou de l'humilier, en fait.
Comment pouvons-nous détecter et agir contre le harcèlement ?
Eh ben, il faut faire de la prévention plus. Donc, la cause des enfants, c'est une association de prévention, justement, contre les violences et contre le harcèlement. Notre travail, c'est d'aller dans le maximum d'établissements scolaires pour prévenir les enfants et leur dire que ce qu'ils vivent, en fait, c'est absolument pas possible. Il y a plein d'enfants qui viennent à l'école la boule au ventre. Pas parce qu'il y a un contrôle de maths, mais parce que justement, ils ne savent pas si aujourd'hui, ils vont se faire insulter, si aujourd'hui, ils vont se faire taper, si aujourd'hui, ils vont se faire humilier. Et en fait, il n'y a aucun enfant qui doit vivre ça. Donc nous, à la cause des enfants, on essaie vraiment de faire comprendre à la victime qu'elle est victime, de faire comprendre à l'agresseur qu'il est agresseur, beaucoup parler aux témoins aussi, leur expliquer que leur rôle, il est fondamental. Un témoin, ça peut justement sauver une victime. Donc, il faut parler.
Y a-t-il d'autres moyens pour lutter contre le harcèlement ?
Mise en place dans les établissements.
Voilà.
Ah, dans les établissements, alors du coup, il y a le programme phare qui est mis en place dans les établissements scolaires. Maintenant, c'est obligatoire, en fait, depuis 2023, tous les établissements scolaires, écoles primaires, collèges et lycées, doivent avoir mis en place le programme phare. En fait, il y a des références spécifiques qu'on présente aux enfants et aux adolescents en leur disant que ces personnes-là sont référentes de la lutte contre le harcèlement. Et il y a des enfants aussi ambassadeurs, des élèves ambassadeurs au collège et au lycée, parce que parfois c'est quand même plus simple de parler à un autre enfant, à un autre adolescent, et cet enfant ambassadeur, il va faire le relais pour transmettre tout à l'adulte. En fonction des éléments, on va convoquer donc la victime potentielle, l'agresseur potentiel et les témoins pour essayer de tirer au clair toute la situation et de faire en sorte que les victimes ne soient plus victimes et que les agresseurs soient punis à la hauteur des faits qui leur sont reprochés.
Pourquoi dans certains cas, personne n'agit ?
Alors, je dirais pas que personne n'agit. En fait, on n'agit pas si on sait pas. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est très compliqué d'en parler et parfois les enseignants, les animateurs vont penser que c'est un jeu, que ils voient vraiment pas en fait les conséquences de ce qui se passe et ce que j'explique aux enfants, c'est que même si il y a beaucoup d'équipes pédagogiques qui sont très à l'écoute des enfants et qui observent beaucoup de choses, ils sont pas non plus magiciens. Et que c'est super compliqué d'en parler, mais que c'est la seule des solutions pour qu'on prenne la mesure en fait de ce qui se passe et de ce que la victime vit au quotidien. Après, il est vrai que il y a des gens qui entendent, mais qui vont pas prendre la mesure ou voilà, je crois que tout le monde n'est pas fait pour recueillir la parole d'un enfant et que c'est quand même très compliqué. Alors, c'est pas une excuse, hein, pas du tout, parce que tout le monde doit écouter les enfants, tout le monde doit les protéger, clairement. Après, si ça fonctionne pas, et j'en suis plus que désolée, parce qu'on devrait pouvoir se livrer une seule fois et que le problème soit réglé, vraiment. Sauf que du coup, c'est pas toujours le cas. Mais sachez que si des enfants nous écoutent, il y a toujours des solutions. Si c'était pas la bonne personne à qui vous êtes confié et qu'il se passe rien, il faut absolument aller en voir une seconde et puis peut-être une troisième. Mais des solutions existent. La plupart du temps, dès qu'on le dit et dès la première fois, des mesures sont prises. Hein. Voilà. Mais je reconnais que c'est pas toujours le cas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours des solutions.
Que dit la loi sur le harcèlement ?
Eh bien, la loi, elle dit que c'est un délit. Voilà, c'est absolument interdit.
Comment pouvons-nous sanctionner les harceleurs ?
Ben, tout dépend dans quel contexte, ce qu'ils ont fait. Après, si ça se passe dans donc un établissement scolaire, des mesures disciplinaires sont prises. Hein, ça s'est vu plein de fois. Et du coup, on peut être exclu temporairement, exclu définitivement également, en fonction de la situation. Parce qu'aujourd'hui, il est dit que c'est plutôt à l'agresseur de changer d'établissement plutôt qu'à la victime. Et pour ça, je suis complètement d'accord. Parfois, c'est aussi la victime qui demande à changer d'établissement, et là, c'est autre chose. Si c'est à sa demande à elle, parce qu'elle veut, en fait, voilà, repartir de zéro dans un autre établissement après avoir vécu parfois l'innommable.
Quelle est l'évolution de la lutte contre le harcèlement depuis le début du siècle ?
Et ben moi, je trouve que ça évolue plutôt pas mal, dans le sens où, évidemment, il y a encore trop de cas de harcèlement, ça, c'est une certitude, et que tant qu'il y en aura encore, je serai jamais satisfaite. Mais je trouve qu'on en parle beaucoup plus, et qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place autour de tout ça, notamment dans les établissements scolaires, où vraiment, avec Phare, ça a fait bouger les choses. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi, par exemple, alors, tout au long de l'année, hein. Mais par exemple le 6 novembre, c'était la journée de lutte contre le harcèlement, en fait. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'établissements scolaires font en sorte de marquer le coup en mettant des affiches, en demandant aux enfants de s'habiller en vert, pour vraiment montrer qu'on lutte tous contre ça. Y a des vidéos aussi qui sont faites, des affiches chaque année. Donc, ça évolue. Bon, ce sera jamais assez pour tous ceux qui luttent contre le harcèlement. Mais les choses évoluent et bougent malgré tout.
Quels sont les moyens pour les victimes de se reconstruire ?
Eh ben, il faut des soins, il faut de l'accompagnement, il faut une famille qui soit autour d'eux, qui les écoute, qui les comprenne. Mais effectivement, des soins psychologiques sont la plupart du temps nécessaires pour pouvoir essayer de tourner la page et de se reconstruire.
On vous remercie, Émilie.
Mais de rien.
On vous rappelle que Émilie était de l'association La Cause des Enfants.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 02 32 33 18 98. 88, pardon.
Et nous vous invitons aussi à rencontrer les professionnels aux 4 avenues Aristide Briand.
et n'oubliez pas deux numéros à retenir. Ils sont gratuits, le 30-18 pour le harcèlement et le cyberharcèlement et le 119 enfants en danger. Merci Sean de m'avoir accompagné pour cette interview sur le harcèlement. Maintenant, laissons la parole à Anaïs et Béritane pour les violences intrafamiliales.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Madame Kalissa, représentante du CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles.
Madame Kalissa, nous allons aborder ensemble le sujet de la violence intrafamiliale. Nous vous laissons vous présenter.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Kalissa Loumani. Donc, je suis juriste au centre du CIDFF. Donc, le CIDFF, c'est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, donc, qui est une association départementale qui intervient notamment pour favoriser, alors déjà, un, l'égalité entre les hommes et les femmes, et deuxièmement, on favorise l'autonomie, notamment, des femmes dans notre société. Voilà un petit peu pour la présentation du CIDFF et moi en tant que juriste. Mon rôle à moi, c'est d'informer les personnes sur leurs droits, ce qu'ils sont en capacité de faire, pas faire, est-ce qu'il faut saisir le juge ou pas. Sachant que nos domaines de compétences, c'est essentiellement le droit de la famille, donc tout ce qui est séparation, divorce, garde d'enfants, pension alimentaire, autorité parentale et autres. Mais ça peut être aussi toute question relative aux droits des étrangers. Et dernier aspect hyper important, c'est on intervient sur tout ce qui est violence intrafamiliale, donc au sein de la famille, mais aussi tout ce qui est violence au niveau du travail.
Depuis quand la violence intrafamiliale a commencé à devenir un sujet ?
Oh, je vous dirais, c'est pas depuis quand, ça a toujours été un sujet, les violences conjugales. C'est juste qu'on a une évolution des mœurs qui fait que maintenant on se rend compte que la violence conjugale est problématique et qu'on doit évoluer par rapport à ça et que c'est interdit par la loi.
À quelle tranche d'âge commence la violence intrafamiliale ?
Bah, après, la violence intrafamiliale, comme je le disais au départ, ça englobe toute la famille. Donc quand on parle de violence intrafamiliale, c'est à bien distinguer des violences conjugales. Les violences conjugales, ça fait partie des violences intrafamiliales. Donc quand on parle des violences intrafamiliales, ça veut aussi dire les violences des parents sur les enfants, comme ça peut être la violence des enfants sur les parents. Et là, j'ai envie de vous dire, malheureusement, il n'y a pas d'âge. On peut avoir un tout petit bébé qui peut subir des violences, tout comme on peut avoir une personne qui va avoir 75 ans et qui peut subir des violences, soit de son conjoint ou de sa conjointe, soit de ses propres enfants. Donc malheureusement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tranche d'âge. Après, on peut vous dire au niveau de nos statistiques, au niveau des statistiques nationales, c'est-à-dire par rapport aux personnes qui déposent plainte, on peut avoir des tranches d'âge. Mais malheureusement, pour moi, ça englobe tout le monde et à tout âge, malheureusement.
Que dit la loi sur la violence intrafamiliale ?
Elle est interdite. On n'a pas le droit d'être violent. Et que si on est violent, on risque une peine de prison et une peine d'amende.
Comment réagir face à la violence intrafamiliale pour qu'elle ne soit pas traumatisée pour les enfants ?
Déjà, je vous dirais, un enfant n'a pas assisté à des scènes de violence conjugale. À partir du moment où on laisse un enfant dans un environnement de violence, ça a toujours un impact pour lui. Dans la mesure où, ça génère quand même des traumatismes, ça peut générer des traumatismes. Et après, n'oublions pas, les enfants, ils sont dans le mimétisme. Donc, on vous dit leur futur couple, ils vont se baser sur le couple parental. Donc, s'il y a de la violence, on vous dit qu'ils risquent d'être auteurs plus tard ou d'être victimes ou rien du tout. On espère tous le rien du tout, mais il y a toujours ce risque qu'ils deviennent violents ou victimes par la suite. Donc, c'est ce qui doit motiver, notamment pour un, qu'il n'y ait pas de violence et que s'il y a de la violence, on sait très bien qu'elle ne va pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain, que la personne va changer en disant stop, j'arrête d'être violent et on part sur des bonnes bases. Alors c'est ce qu'on aimerait bien, je vous avoue, mais malheureusement dans la pratique c'est pas le cas. Parce que pour moi derrière il faudrait un suivi psychologique de l'auteur, que l'auteur soit un homme ou une femme. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui doit être effectué, malheureusement ce travail il n'est pas toujours fait. Donc pour moi un enfant ne doit pas assister à des scènes de violence.
Comment les enfants réagissent face à la violence intrafamiliale ?
Ils sont perdus. Ils sont perdus entre ceux qui, au bout d'un moment, ça devient un petit peu la norme et voilà. Et de l'autre côté, ceux qui n'acceptent pas. Mais la réponse, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parfois, c'est leur mettre beaucoup de responsabilités ou c'est l'enfant qui va dire stop. Et ça, c'est pas une bonne chose. Normalement, la réponse, elle doit venir des parents pour dire stop, mes enfants n'ont pas à supporter ça ou à subir ça. Voilà. Après, ça peut être aussi le fait que les enfants interviennent. Alors parfois, ils peuvent intervenir pour dire stop, on veut plus tout ça et on peut pas rester et continuer dans cette situation. Ça peut être un élément déclencheur du parent qui subit les violences et pour notamment mettre fin à cette relation, on va dire, toxique. Mais c'est une place qui est pas évidente parce que il y a aussi le principe de loyauté. J'aime mon père, j'aime ma mère. Même si je sais que dans la situation, c'est pas top, mais je les aime tous les deux. Donc, c'est pas une place évidente. Et pour moi, c'est pas la place d'un enfant au milieu de tout ça.
Comment les voisins, les voisines et l'entourage peuvent réagir quand ils remarquent la violence intrafamiliale?
C'est appeler les forces de l'ordre pour qu'ils interviennent directement. Il faut pas avoir la politique de « cela me regarde pas », d'abord ils vont se réconcilier sur le coussin ou avoir des remarques du type non, ça reste du privé, ça les regarde eux, donc on n'intervient pas. Bien au contraire, ils ont cette sensation que si la victime elle reste, c'est parce qu'elle aime bien ça ou que cette situation lui convient ou lui correspond. Non, ça lui convient pas et ça lui correspond pas. Le souci, et ça malheureusement, comme les personnes ne sont pas formées sur la question des violences conjugales, ils ont plutôt cette impression que si elle reste, c'est parce que il n'y a pas d'autre solution, mais ou que si elle voulait vraiment que ça cesse, soit elle serait partie, soit elle aurait appelé les forces de l'ordre. Mais il faut savoir, c'est que les victimes n'ont pas toujours accès à leur téléphone et ne peuvent pas toujours appeler les forces de l'ordre. Donc le fait que les voisins ou les personnes autour aient assisté et ou entendent des cris ou des coups, pour moi, je dirais le meilleur réflexe, c'est d'appeler les forces de l'ordre pour qu'ils interviennent. Et s'ils interviennent et qu'ils constatent les choses, c'est aussi une bonne preuve et ça permettra de prendre aussi en charge la victime de violences conjugales avec une orientation vers l'hôpital pour lui faire un certificat médical et autres. Donc ça peut être pour moi une très bonne chose. Il faut appeler les forces de l'ordre. On ne demande pas aux voisins d'intervenir et de se mettre en danger, mais de faire intervenir les forces de l'ordre.
Comment les voisins, les voisines et l'entourage peuvent intervenir face à la violence intrafamiliale?
En appelant les forces de l'ordre. Après, dans le cadre des preuves, notamment que ce soit par exemple devant le juge aux affaires familiales quand il est la question de la séparation, de la garde des enfants, d'avoir des attestations qui établissent notamment les violences. Donc une attestation des voisins, ça peut être une bonne chose. Si la victime dépose plainte ou si à l'intervention des forces de l'ordre, les témoins peuvent être aussi auditionnés. Et donc comme ça, toutes ces preuves-là, c'est du plus qui permettront d'établir que la personne est bien victime de violences conjugales.
Quels sont les traumatismes causés par l'intrafamilial sur la famille?
Les traumatismes, ils sont importants. Après ça, je vous dirais, ça relèverait plus notamment du volet psy, que je ne suis pas. Mais après, je vous dirais, en dehors des traumatismes, c'est plutôt les conséquences qu'on peut avoir sur la famille et les victimes. Déjà, il faut savoir que dans le cadre, par exemple, des violences conjugales, on a souvent une personne qui est rabaissée, qui est dénigrée. C'est une bonne à rien, elle ne sait rien faire. Alors quand je dis « elle », je mets au féminin, mais tout comme ça peut être un homme qui peut également être victime de violences conjugales. Mais il y a ce manque de confiance en soi, ce qui fait que derrière, après, on a du mal à se reconstruire et de se dire qu'on est en capacité de. Et c'est aussi pour ça que ça freine le départ des victimes. Et puis, il y a aussi cette sensation de culpabilité, de responsabilité. Si il y a eu des violences, c'est à cause de la victime. C'est de sa faute parce qu'elle a mal fait ou elle a pas bien fait les choses ou voilà, peu importe. Parce que on sait très bien que dans le cadre du cycle des violences conjugales, on va vous dire qu'un auteur, il crée une tension à avec des pressions quotidiennes, et ensuite jusqu'au moment où il va y avoir ce qu'on appelle un passage à l'acte, qu'il soit physique ou verbal. Et une fois qu'il y a ce passage à l'acte, qui est justifié par tout et n'importe quoi, du type, moi je le vois dans mes rendez-vous, parce qu'il n'y a pas assez de sel dans le repas, ou parce que la viande elle est trop cuite, ou pas assez cuite, ou parce que le balai il est dans le couloir et qu'il n'est pas rangé dans le placard, ou que les enfants, il est 19h, ils sont toujours pas en pyjama, ils ont toujours pas mangé. Enfin, pour vous dire que c'est vraiment justifié par tout et n'importe quoi. Et une fois qu'il y a ce passage à l'acte, l'auteur va se déresponsabiliser. C'est pas de ma faute, c'est de ta faute. Parce que si tu avais mieux fait ça, ou si tu avais mieux cuisiné, ou si tu avais fait ça, je ne me serais pas énervée. Et le problème, c'est que la victime, elle y croit. Et elle se dit, bah oui, c'est vrai. Je l'ai peut-être cherché, ou si j'avais mieux fait ça, il ne se serait pas énervé, donc il ne m'aurait pas tapé, ou il ne m'aurait pas insulté de tous les noms. Et une fois qu'il y a cette phase de déresponsabilisation qui passe, on a l'auteur qui redevient comme il était au tout début de la relation, c'est-à-dire mielleux, gentil. Alors il va s'excuser, il peut offrir des fleurs, il peut offrir un beau cadeau. Et là, la victime a l'impression de retrouver la personne, le prince charmant qu'elle avait rencontré au départ. Mais comme on le dit, comme toute lune de miel, nous on appelle ça une lune de miel, comme toute lune de miel, ça ne dure pas. Et rebolote, recrée une pression, tension, passage à l'acte, violence et déresponsabilisation. Ce qui fait qu'au niveau de la victime, elle se sent mal, coupable. Et c'est pour ça que le dépôt de plainte est compliqué, parce que j'ai pas envie de l'enfoncer plus que ça. C'est ce ressenti. Donc, et ça, pour redéconstruire toutes les violences, eh ben pour moi, il y a besoin d'un bon suivi psychologique pour pouvoir se reconstruire, reprendre confiance en soi.
Quelles sont les conséquences sur l'enfant victime de la violence intrafamiliale dans la vie de tous les jours ?
On va vous dire, alors, c'est là où on va voir les attitudes des enfants. On va avoir des enfants qui peuvent être soit violents, où il peut y avoir un décrochage scolaire qui va se renfermer sur lui-même. Tout comme on peut avoir un enfant qui va être super brillant au niveau des études, ça va être un enfant calme et autres. On va avoir différentes possibilités pour l'enfant. Et c'est pour ça quand on voit des violences conjugales, on essaye de voir sur le volet éducation nationale pour savoir si c'est un enfant qui est remarqué ou pas. Et dans certaines situations, on va vous dire non, c'est un enfant calme, qui n'a aucun problème ni quoi que ce soit. Tout comme à l'inverse, ça sera un enfant qui serait susceptible d'être victime de harcèlement à l'école, avec des moqueries et autres. Donc, Ça peut être très variable.
Quelles sont les amendes de la violence intrafamiliale ?
Les amendes ?
Non, mais c'est quoi ? Pardon, je reviens sur le papier, c'est quoi ?
C'est quelles sont les amendes et les conséquences.
Ah, les conséquences, oui, juridiques.
Oui.
Ah, d'accord, pardon. Je veux bien que tu reposes la question. Pardon, pour mon enregistrement, je veux bien, Béritane, que tu poses la question. Quelles sont les conséquences juridiques ?
Quelles sont les conséquences juridiques sur la violence intrafamiliale ?
Alors, il faut savoir que d'un point de vue pénal, on peut déposer plainte pour des faits de violence conjugale. Et je ne vais pas vous rentrer dans le détail pour ne pas vous perdre, mais la personne auteur de violence risque 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Et ça peut aller au-delà en fonction de la gravité, de ce qu'on appelle des circonstances. Ça dépend d'éléments supplémentaires. Pour ne pas vous noyer dans tout ça, et ça peut aller à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende.
Comment aider les familles à se sortir de la violence intrafamiliale ?
Un renvoi vers le CIDFF, déjà. Alors, je dis le CIDFF, mais il faut savoir qu'on travaille en partenariat avec beaucoup d'autres structures, tous compétents sur un domaine spécifique. Et dans ce cadre-là, on vous dit une victime, elle peut aller voir tout type de professionnels. Je prends l'exemple du CIDFF. Le CIDFF, on va être sur un, de l'écoute, premièrement, et deux, de l'information sur leurs droits. Après, on leur dit toujours, quand on vient nous voir, on ne force personne à faire quoi que ce soit, ni à déposer plainte, ni à quitter son conjoint ou sa conjointe. c'est leur décision. Mais c'est, on y voit toujours plus clair quand on a la connaissance de ses droits. Mais après, il y a aussi, par exemple, l'association Accueil Service, qui a un numéro d'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi l'association La Pause ADAEA, qui ont aussi un rôle d'écoute. Après, pour une victime, par exemple, qui vient tout juste de subir des violences physiques, moi, je dis toujours qu'il est important d'avoir un certificat médical établi, si possible, par un médecin légiste. Donc ça, on regarde notamment au niveau des hôpitaux. On peut orienter vers l'assistante sociale pour voir au niveau des démarches et voir sur l'aspect financier, tout comme on peut voir avec la CAF. Tout comme une personne se dit, oui, mais moi, j'ai peur. Si je dépose plainte, est-ce que je serai protégée? On peut renvoyer vers l'association d'aide aux victimes. Dans tous les cas, peu importe vers qui on oriente la victime, vers notamment ces structures-là, on fera toujours le renvoi entre nous en fonction de chaque problématique et pour vraiment apporter toutes les solutions à la victime.
À qui pouvons-nous parler et nous confier?
Alors, d'un point de vue professionnel ou au niveau des proches?
Les deux.
Ben, les proches, ça, il ne faut pas hésiter. Sachant que dans la stratégie des auteurs de violences conjugales, c'est d'essayer d'isoler la victime. C'est-à-dire, pas de contact avec ses amis, sa famille. Si possible, la personne ne travaille pas, ça favorise les choses. Parce que, un, ça lui permet... Surtout, ça la bloque d'un point de vue financier, parce que ça veut dire qu'elle ne sera pas en capacité, la victime, de partir, d'avoir un logement, de subvenir aux besoins de sa famille, alors qu'en vérité, il y a des solutions alternatives. Et même chose, le fait de l'isoler de ses proches, donc le cadre familial et amical, ça lui permet de ne pas prendre conscience que ce qui se passe à la maison n'est pas normal. Et donc, si elle devait partir en urgence un jour ou l'autre, c'est balira chez personne, puisque ces personnes-là, elle n'a plus de contact. Donc, premier réflexe, c'est de dire, on maintient le contact avec une victime. Que ça déplaise à l'auteur ou pas, mais on essaye de maintenir ce lien-là. C'est la meilleure façon de l'aider, sachant qu'on ne doit pas être dans le jugement, mais lui dire, voilà, ma porte, elle est ouverte. Au même titre que nous, les professionnels, alors c'est la liste des tous les professionnels que je vous ai donné en amont. Quand bien même nous, la victime, elle vient nous voir, elle nous dit qu'elle est prête et puis deux semaines plus tard, elle nous dit qu'elle a changé d'avis et puis elle revient nous voir dans un mois ou trois mois ou six mois, nous, on ne sera toujours pas dans le jugement. Donc on sera toujours là pour l'aider à essayer de s'en sortir.
Comment avoir le courage de s'exprimer face à la violence intrafamiliale?
Ah, c'est pas simple. Parce que le courage, je vous dirais, quand vous avez une personne qui vous rabaisse constamment et qui vous dit que c'est de votre faute, c'est dur que d'ouvrir les yeux comme ça du jour au lendemain et de se dire « Allez, cette fois-ci, j'y vais ». Pour moi, je trouve que la meilleure façon pour partir ou pour en tout cas mettre fin à ces violences, c'est déjà de prendre conscience qu'on est victime de violences conjugales, que ce n'est pas de la faute de la victime. Et c'est aussi lui donner la possibilité de dire il y a des solutions pour que ça cesse. Et ces solutions, c'est notamment le renvoi vers les partenaires, comme je vous disais, pour stopper tous les freins, pour pouvoir préparer son départ.
Nous arrivons à la fin de notre échange aujourd'hui. Nous avons eu le plaisir d'échanger avec Madame Kalissa du CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, situé au résidence Djougou, rue du Boileau, 27 000 Évreux. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou être accompagné, vous pouvez contacter le CIDFF au 02 32 33 44 56 ou visiter leur site internet heure.cidff.info.
Nous remercions chaleureusement à Madame Kalissa pour ses réponses claires et précises et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci à vous de cette invitation et merci pour toutes ces questions, en espérant que ça permette, on va dire, d'éclairer les personnes qui étaient un petit peu dans le doute sur cette thématique. Merci beaucoup.
Merci Kalissa. et Berethane. Maintenant, nous allons passer avec Khalid et Florent sur le tabac.
Bonjour, nous sommes en présence du CSAPA, Centre de soins d'accompagnement et en prévention en addiction.
Nous sommes avec mesdames Awa et Circe. Nous sommes tous deux fumeurs et nous avons quelques questions sur le tabagisme.
Quels sont l'impact du tabac sur l'utilisateur ?
Alors, si on veut parler d'impact, il y en a plusieurs en fait. On peut parler d'impact sur la santé physique. On les connaît, hein, enfin, la plupart du temps, ils sont présentés sur les versants de maladies cardiovasculaires, mais aussi les choses autour du cancer, etc. Mais je parlerai plutôt d'impact social et financier. C'est vrai que l'impact financier, on voit le prix du tabac qui augmente quasi tous les ans, en fait. Hein, et donc, c'est un véritable budget. Moi, qui suis accompagnatrice sociale au CSAPA, je travaille beaucoup cette question du budget et du coût du tabac, notamment chez les plus jeunes. Voilà. Donc, il y a divers aspects, divers impacts. On parle beaucoup de santé, de santé globale, mais aussi de la santé psychologique. C'est aussi important et c'est pour ça que je suis aussi là avec ma collègue Circe pour parler de cet aspect-là. Donc il y a plusieurs aspects et ça dépend de celui qu'on veut traiter et sur lequel on veut discuter. C'est vrai que chez l'impact financier, c'est celui qui arrive souvent en premier dans les questions. Quand on est jeune, la santé, c'est pas qu'on s'en inquiète pas, mais on se dit que les maladies, c'est pour plus tard. Par contre, l'aspect financier, c'est celui-là qui va être la première demande en fait. Je veux arrêter de fumer parce que ça coûte cher. Et ensuite arrive la santé. Souvent, c'est les deux principaux aspects de néfastes, on va dire, voilà, de la consommation.
Pourquoi l'addiction du tabac est très puissante ?
Alors, mais déjà, il y a l'aspect physiologique. Donc, la nicotine, c'est une molécule qui est très, très addictive. Donc, notre cerveau adore ça. Et en fait, quand il va rencontrer la nicotine, il va créer d'autres récepteurs pour en avoir plus. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et après, comme on disait tout à l'heure, il y a aussi l'aspect psychologique. Souvent, vous, en tant que fumeur, si vous réfléchissez un petit peu à pourquoi vous fumez, bah, vous allez voir que c'est pour gérer le stress, c'est pour éviter l'ennui, c'est pour gérer une émotion, se concentrer. Donc il y a ces deux aspects-là qui rentrent en compte. Il y a le côté physique, vraiment, et le côté psychologique qui vont multiplier le fait qu'on est vraiment accroché à cette molécule et à la cigarette.
Pourquoi les fumeurs fument-ils ?
Il y a une grande question. Si je devais vous la poser à vous, et c'est ce que disait à l'instant Circe, alors les premières fois, en général, on fume pour faire un peu comme les autres. Ou parce que un groupe de copains, un groupe de pères fume et donc on veut les premières cigarettes, c'est un petit peu ça en fait. Hein. Après, pourquoi on fume ? On fume pour plusieurs raisons et celles qu'on a évoquées tout à l'heure. Parce que on est stressé, parce que on a besoin de se concentrer et après ça devient une habitude. Et après on fume par habitude. Voilà, mais c'est vrai que j'ai envie de vous dire, c'est aussi très individuel. Chacun va nous dire, si on devait vous poser la question à tous les deux qui êtes fumeurs, je crois que vous aurez peut-être tous les deux des raisons différentes et des réponses totalement différentes. Donc c'est un petit peu, on va dire, au cas par cas. Mais dans la majorité, c'est surtout ça. En tout cas, on commence en groupe, avec les copains.
Social, ouais.
Et puis voilà, le côté effectivement social de l'affaire.
Pourquoi les buralistes vont-ils aux mineurs ?
Ils ne devraient pas.
Oui.
La loi, ils ne devraient pas. Je dirais même, ils sont en totale infraction. C'est-à-dire que c'est interdit, en fait. Un mineur ne peut pas acheter ni de tabac, ne peut ni fumer ni vaper en France. C'est interdit. Donc quand le buraliste vous vend du tabac, à vous, si vous êtes mineur, enfin non, vous n'êtes pas mineur, mais s'il le vend aux mineurs,
il est hors la loi.
Il est hors la loi.
Après, donc, pourquoi il le vend ? Bah, parce que financièrement, c'est pour lui, c'est des clients. Hein, donc, c'est peut-être plus facile de ne pas se poser la question.
Et les buralistes nous disent souvent, quand on interroge... Alors, Addiction France a fait une petite expérience d'envoyer des jeunes mineurs aller acheter du tabac. Ils sont tous revenus avec un paquet. Tous mineurs, tous revenus avec un paquet. Pourquoi ? Bah, parce que le buraliste nous dit, mais moi, je ne peux pas faire la différence entre un mineur et un majeur. Et je ne vais pas aller demander la pièce d'identité à tout le monde. Et bien, on devrait. On devrait. Et dès qu'on a un doute, on demande. Mais on devrait. En tout cas, la loi, elle est claire là-dessus. C'est interdit de vendre du tabac et des vapes aux mineurs.
Que risque un buraliste qui vend des cigarettes aux mineurs ?
Alors, j'ai plus la loi en tête, hein. Mais je pense qu'il y a une grosse amende et peut-être même de la prison, non? J'avoue, là, j'ai pas les données en tête.
Vous avez mis une colle.
Ouais.
On sait que c'est non, il y a une amende, ça c'est sûr. Oui, la prison, sûr. Je pense pas. Il y a une grosse amende. Donc en fait, il y a rarement des contrôles en plus. C'est ça le souci. C'est que il y a pas assez de personnes pour aller contrôler les buralistes. Une amende, c'est sûr. Le prix de l'amende, je ne sais pas, mais elle est quand même assez salée. Donc,
ouais. Comment se passe la vente envers les mineurs?
La vente envers les mineurs.
Oui, c'est ça.
Bah, il devrait pas y en avoir de vente aux mineurs. Donc, normalement, les mineurs ne peuvent pas acheter de tabac. Si les mineurs fument, c'est parce que des adultes ou l'entourage achètent les cigarettes. Mais bon, en vérité, vous avez peut-être déjà fait l'expérience en tant que mineur, on vous a déjà vendu des cigarettes. Voilà. Donc, vraiment, cette loi. Alors, je vous invite à aller regarder. Hein, vous pianotez interdiction tabac, vous allez trouver toute la législation dans le détail qui régit la vente du tabac aux mineurs.
Que fait l'État envers les jeunes et les personnes qui fument pour lutter contre?
Alors, il y a des promotions, ouais. Des promotions de grandes actions, notamment aujourd'hui, on est encore dans le mois sans tabac et on n'a pas encore fini le mois de novembre. C'est vrai que on est content que cette grande opération, ce grand défi soit relayé par les pouvoirs publics et notamment les publicités. Vous avez peut-être pu les voir à la télé, alors que ce soit des personnalités, des acteurs, des animateurs qui parlent de leurs difficultés avec le tabac et qui sont prêts à se challenger et pendant ce mois sans tabac à pouvoir faire les choses. L'État augmente les prix des cigarettes. Alors oui, ça a un impact, mais il ne faut pas oublier que le tabac, on va dire de contrebande, lui, il existe toujours et ce tabac-là, on n'a pas de contrôle là-dessus. En fait, l'État se défend en augmentant les prix des paquets pour dire nous luttons contre le tabagisme des plus jeunes notamment, mais de la population en général. La petite info, c'est que faut savoir que plus on augmente les paquets de cigarettes, et plus c'est compliqué, notamment pour les personnes, qui ont moins de moyens, parce que c'est celles qui fument le plus. Dans les catégories socioprofessionnelles, ce sont celles-ci qui fument le plus. Donc voilà. Donc moins on a de moyens et plus on fume, donc plus le paquet de tabac augmente et plus on va augmenter la précarité de ces personnes-là. La précarité financière, bien sûr.
Quelle tranche d'âge y a-t-il le plus de fumeurs?
Je dirais peut-être quand même les jeunes. Donc, c'est quand même le moment où on commence et le moment où on s'initie. Et c'est aussi peut-être le moment le plus difficile pour arrêter. Parce qu'il y a le côté, les copains fument. C'est difficile d'être dans un groupe où on va décider de ne plus fumer alors que les autres continuent. Mais j'ai l'impression que nous, au XAPA, on a vraiment tous les âges avec des personnes qui fument depuis des années ou alors des gens qui ont juste un petit peu commencé et qui voudraient tout de suite arrêter parce qu'ils voient que voilà, c'est cher, c'est mauvais pour, par exemple, leur souffle. Ils sentent qu'ils sont moins bons dans leur sport, ils sont plus essoufflés. Mais je dirais que ça touche quand même toutes les générations. Hein.
Ouais. Mais c'est vrai que le pic chez les 30-50, on va dire, il est quand même encore plus élevé, mais les nouveaux, Circe a raison, les nouveaux fumeurs sont effectivement les jeunes. Même si en France, aujourd'hui, on assiste à une diminution de nombre de fumeurs, de nombre de jeunes fumeurs. Alors peut-être grâce aux grandes actions, notamment comme le mois sans tabac, peut-être aussi à l'augmentation du prix, peut-être l'arrivée des puffs. En tout cas, on constate une baisse des fumeurs, des jeunes fumeurs, et notamment des garçons. Donc les garçons commencent la courbe des garçons fumeurs est en train de s'inverser, elle baisse, elle a longtemps été très très haute et elle baisse. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Quelle est la moyenne d'âge où les gens commencent à fumer?
Bah je dirais autour de 15 ans, voire même des fois plus jeune. Hein. Quand on demande aux personnes qu'on accompagne, il y a des personnes qui ont commencé à 12, 13 ans... Ça peut être en fonction des milieux sociaux, en fonction d'où vous avez grandi, ça peut être quelque chose qui commence très tôt. Mais on va dire autour de 15 ans, 14-15 ans, ça va être vraiment le moment de l'initiation. En général, fin collège, début lycée, c'est un peu le pic du début.
Excusez-moi du terme, la première clope est dégueulasse. Pourquoi continuer à fumer?
Justement, c'est vrai que...
On aimerait vous retourner la question.
Mais tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que la première cigarette, elle est toujours décrite comme « elle m'a fait tousser, elle n'est pas bonne, l'odeur n'est pas, il est pas agréable ». Et pourtant, il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et c'est bien ça qui fait qu'on va continuer. C'est-à-dire que la nicotine va aller rejoindre vos récepteurs nicotiniques qui, en fait, qu'on a dans le cerveau. Et ceux-ci vont être... Ben, du coup, ça va les... Ils vont être friands de ça, c'est-à-dire qu'ils vont...
Ça déclenche cette récompense, ça vous amène de la dopamine, ça vous rend heureux, détendu, content.
Exactement, même si on ne le sait pas sur le moment, mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on va tenter de renouveler cette opération et de retrouver ce petit pic, un peu ce petit shoot d'adrénaline, de truc qui s'est passé en fait. C'est là où c'est très complexe parce que ce moment-là, on ne le sait pas tout de suite. Et pourtant, cette cigarette, cette clope, comme vous dites, qui était dégueulasse, et on va aller jusqu'au bout de la cigarette, et peut-être le lendemain, peut-être pas tout de suite d'ailleurs, mais on va avoir envie de renouveler l'opération et de se dire « ouais, mais il s'est passé quelque chose quand même ». Et c'est ça qui nous fait...
Et on peut aussi peut-être dire que, si vous pourrez me dire si j'ai tort, mais le fait d'avoir commencé avec des copains ou des copines... Ça fait toujours mieux quand même de terminer, ça fait toujours mieux de aller, on recommence, c'était sympa, c'était ce petit moment ensemble, donc on recommence, même si on n'a pas trop aimé le goût, même si on n'a pas trop aimé la sensation au début.
Comment arrêter ?
Oh, alors là, on a juste un moyen, c'est pour ça qu'on est là.
En fait, vous pouvez venir nous voir déjà.
C'est ça, l'EXAPA, donc les centres de... Alors, il y a plein de personnes qui veulent arrêter de fumer, qui vont voir leur médecin généraliste et ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Il est aussi formé, il peut vous aider, mais c'est vrai que la meilleure des solutions, c'est quand même d'être aidé par des professionnels de l'addiction et notamment du tabac. On peut arrêter au travers de tout ce qui est traitement de substituts nicotiniques, notamment les patchs, les gommes, alors il va y avoir plusieurs pastilles, il y a plusieurs sources de traitement. Et puis on a nous un outil qu'on avec lequel on travaille, qui est la cigarette électronique, qu'on va donner aux usagers qui viennent nous voir pour pouvoir les initier à cet outil, qui est un outil de réduction des risques en fait. L'idée, c'est quand même pas d'arrêter violemment, brutalement, c'est de aussi pouvoir penser son arrêt, voir où est-ce qu'on en est, pourquoi je fume. Et une fois qu'on a pensé cet arrêt, on essaye de trouver les outils les plus adéquats, enfin en tout cas ceux qui pourraient nous correspondre. Ça peut être des substituts nicotiniques, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être aussi une vape, une cigarette électronique, ça peut être d'autres sources, ça peut être de la sophrologie, ça peut être de l'hypnose, ça peut être... on a vraiment plusieurs possibilités, en tout cas plusieurs formes de traitement et d'accompagnement.
Pourquoi les clopes à l'unité ont-ils augmenté du prix ?
Les clopes à l'unité ont
augmenté du prix.
En fait, elles existent plus. Les clopes à l'unité, elles existent plus. Elles n'existent pas en France, en fait. On ne peut pas acheter de cigarettes à l'unité. On peut les acheter dans d'autres pays. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que du coup, quand vous fumez peu, on a des personnes qui fument occasionnellement. Hein. Bon, elles sont pas nombreuses, mais elles existent quand même. Et l'idée, c'est pas de pouvoir acheter le paquet parce qu'on l'a sur soi, puis on va le terminer. Hein. Alors que si on va acheter une cigarette, deux cigarettes à l'unité dans la rue, ça peut être, parce que je dis ça parce que dans certains pays, notamment d'Afrique, elles se vendent dans la rue, à l'étal, voire même sur les marchés, etc. On peut les vendre à l'unité. Et on va s'acheter, par exemple, ces trois cigarettes de la journée. Ça peut être un moyen aussi de limiter sa consommation. Mais c'est, encore une fois, en France, on n'a pas ce problème-là. Il n'y en a pas à l'unité. On a connu les paquets de 10 cigarettes, il y a très longtemps. Vous, vous ne les avez pas connus. Et ils n'existent plus non plus. Mais ça permettait d'avoir le petit paquet. Là, les paquets se vendent sous conditionnement de 20 ou de 25, voire même de 30. Donc, c'est aussi le danger d'avoir le paquet plein.
Est-ce que fumer donne la classe ?
Ah. Il y a un sketch comme ça, je ne sais plus de quel humoriste, qui disait qu'il était à une soirée, et puis finalement, alors que quand il ne fumait pas, il n'avait pas l'impression d'être vu et d'être apprécié des autres, et qu'il avait une espèce de style, comme on dit, quand il a sa cigarette au doigt et au bout du bec, on va dire.
Moi, oui, les fumeurs décrivent quand même ça, hein, ce côté social, ce côté... quand vous êtes à table et que tout le monde sort fumer une clope et vous êtes tout seul à attendre, par exemple, dans le restaurant, bah il y a ce côté-là quand même de on fait partie d'un groupe. Après la classe, je pense que ça va dépendre de votre point de vue. Ouais, moi je trouve pas, mais voilà, c'est, on a peut-être biaisé aussi par notre métier, mais
ouais,
moi non je pense que ça dépend de chaque personne.
Je trouve pas non plus que c'est très très classe, parce que c'est pas classe de cracher quelque chose, notamment de la fumée. C'est pas classe que d'avoir l'odeur du tabac sur soi, l'odeur du tabac dans sa bouche. Enfin, je vois pas où est la classe là-dedans, vraiment pas. Et puis beaucoup, on a des d'ailleurs c'est rigolo, parce que les garçons nous disent ah ouais mais non mais une fille qui fume c'est pas classe du tout. Bah j'ai envie de dire un garçon ou une fille qui fume, hein, c'est pareil. Hein. Voilà.
Quelle est la différence entre un fumeur passif et un fumeur actif ?
Alors, le fumeur actif, ça va être celui qui fume la cigarette. Donc, comme vous, par exemple, vous avez dit que vous étiez fumeur. Le fumeur passif, ça va être tous les gens qui vont être à côté pendant que les fumeurs actifs fument. Donc, en fait, le fait de se retrouver dans un environnement où des gens fument autour de nous, bah, on va quand même inhaler tout ce qui est... composant toxique qui est créé par la combustion lorsqu'on fume. Donc, si vous êtes non fumeur mais qu'autour de vous il y a des fumeurs, oui, là vous êtes fumeur passif. Donc, vous risquez aussi d'avoir des problématiques en termes de santé par rapport à ça si c'est régulier. Comme avant, par exemple, on fumait dans les restaurants, on fumait dans les voitures, on fumait partout.
Dans les trains.
Dans les trains, voilà. On fumait partout et du coup, c'est un peu comme ça qu'on s'est rendu compte du tabagisme passif, où c'est là qu'on a mis en place la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics, parce que justement, ça créait aussi des problèmes pour ceux qui ne fumaient pas, mais qui recevaient toute la fumée.
Entre 4 et 20 cigarettes par journée, quelle est la différence sur la santé ?
Alors, c'est la même. En fait, ce qui va compter dans le tabac, c'est vraiment la durée d'exposition. C'est le seul produit où c'est pas la quantité journalière ou habituelle qui compte, c'est la durée. Si vous fumez 10 cigarettes par jour pendant 10 ans, vous êtes moins à risque que si vous fumez 5 cigarettes par jour pendant 20 ans. Le fait d'être exposé très longtemps, c'est là où vous augmentez vos risques. Donc en fait, c'est vraiment la durée qui compte. Quelqu'un qui va fumer une cigarette pendant 60 ans, il est autant à risque que quelqu'un qui a fumé 10 cigarettes pendant 30 ans. Donc vraiment, nous, on aide les personnes à réduire petit à petit, mais de garder toujours une cigarette, même si c'est qu'une seule par jour, ça sera toujours toxique, il y aura toujours ces composants-là qui sont présents. Donc c'est vraiment la durée d'exposition qui compte, pas le nombre.
Quelles sont les solutions pour arrêter de fumer ?
Alors comme on vous disait tout à l'heure, hein, ça peut être les accompagnements par les substituts nicotiniques, ça peut être accompagnement aussi au niveau psychologique, parce que des fois il y a la gestion émotionnelle qui rentre en compte, il y a les angoisses, le stress, il y a le côté aussi comment socialement se positionner dans un groupe qui est fumeur et puis que maintenant on a envie d'arrêter de fumer. Donc tout ça peut être aussi... on va dire discuter pendant des entretiens, travailler ensemble, notamment chez nous par exemple, pour essayer d'arrêter. Il n'y a pas que le côté physique qui va compter.
On remercie Madame et Monsieur Awa et Circe de l'équipe XAPA, qui est le centre du soin d'accompagnement et de prévention en addiction, qui est situé au 9 rue du Lon à Évreux. Pour plus d'informations, veuillez les contacter au 02 32 62 02 21.
Ou sinon, vous rentrez sur le site Tabac Info Service ou au 3989. Je remercie le groupe du XAPA. Merci aux auditeurs pour nous avoir écoutés. Nous sommes le FSE+ de la mission locale. Et merci à JC de nous avoir accueillis sur son plateau.
Cela se termine sur le tabagisme. Merci à Flo et au reste de l'équipe qui se compose de Flo, Sean, Beretan, Stalia, Anaïs et de moi-même Ralid. Merci à JC de nous avoir accueillis sur ce plateau Principe Actif. Si vous voulez nous réécouter, les interviews sur le site www.principeactif.net. Comme Beretan l'a dit, nous faisons partie du groupe 10, FSE+, Fonds Social Européen Plus. Le FSE+, est un dispositif national pour agir en faveur de l'emploi. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt.